Donc merci beaucoup. Et donc on va passer à la dernière session. Penser l'adaptation de la psychiatrie dans la santé mentale, perspective et prospective d'une nouvelle organisation des soins. Et nous allons commencer par Marie-Josée Fleury, professeure à McGill, à Montréal, qui peut parler d'ici ou de là-bas, comme vous souhaitez.
Alors, bonjour. Merci beaucoup d'être encore là à 7h, à 19h15. C'est vraiment tard. Alors, merci aussi au comité organisateur pour cette belle invitation. Je vais vous parler des troubles mentaux, de la santé mentale. Alors, je vais débuter par vous faire un bref portrait épidémiologique des troubles mentaux. Par la suite, je vais focaliser sur 5 principaux axes de transformation de l'organisation de la santé mentale. Un de ces principaux axes de transformation va être les bonnes pratiques en santé mentale. Les axes dont je vais vous parler, ce sont des axes de transformation et des bonnes pratiques qui sont implantées dans à peu près tous les pays nord-américains, Grande-Bretagne, Australie. En fait, à peu près tous les pays suivent les mêmes grandes tendances de transformation. C'est ce que je vais vous parler dans les 5 principaux axes de transformation. Et je vais conclure par un certain nombre d'enjeux et de défis. Alors, juste quelques statistiques au niveau du portrait de la santé mentale, dont vous savez probablement tous qu'on dénote un accroissement de la prévalence des troubles mentaux. Dans les années 1990, les troubles mentaux représentaient 11 % du fardeau des maladies et on estime qu'en 2020, les troubles mentaux représenteront 15 % du fardeau des maladies. Les troubles mentaux affectent environ 15 % de la population dans une année. C'est des statistiques propres au Canada et en France. Les troubles mentaux se présentent aussi rarement seuls. Ils sont souvent accompagnés de l'addiction et des maladies chroniques physiques comme le diabète, les troubles cardiovasculaires. En fait, les troubles concomitants sont plus la règle que l'exception. Qu'est-ce qui complexifie aussi le profil des troubles mentaux, c'est qu'on retrouve aussi un nombre important de troubles mentaux qui ont un profil chronique. On sait que les troubles mentaux graves, la schizophrénie a un profil chronique. On sait aussi, enfin, on estime de plus en plus que la dépression est aussi une maladie chronique. On a des statistiques qui nous disent que une personne qui fait un épisode de dépression a environ 60 % plus de chances de faire un deuxième épisode de dépression au cours de sa vie, en fait, dans la dizaine d'années qui suit sa première épisode de dépression. Et on sait aussi de plus en plus que les addictions ont aussi un profil chronique. Alors, les personnes qui sont alcooliques ou ont des problèmes de drogue vont avoir ces problèmes-là pour une dizaine, vingtaine d'années. Quelques mots maintenant sur l'utilisation des services et leur adéquation. Les études aussi nous indiquent que malheureusement qu'une minorité des personnes sont traitées, donc des gens qui ont des troubles mentaux, qu'une minorité sont traitées de l'ordre de 40 à 70 % et ce dans les pays comme nous, là, des pays développés. Et malheureusement, de cette minorité de personnes qui sont traitées, qu'une minorité reçoit des traitements minimaux dits adéquats. Ce qu'on entend par des traitements minimaux adéquats, ce sont vraiment des traitements qui suivent les standards de qualité. Et comme autre problème, je vous dirais, de l'organisation des services de santé, ce qu'on répète et répète depuis des années, bien sûr, les problèmes de coordination du système de santé, donc l'insuffisance de la coordination entre les professionnels de soins et les organisations. Et je pense qu'on en a parlé beaucoup depuis cet après-midi aussi, les délais importants de prise en charge des personnes. Donc, dès l'apparition des premiers symptômes à la prise en charge des troubles mentaux, la littérature nous indique qu'on a souvent un délai d'environ 10 ans. Et on sait que c'est très important d'intervenir très tôt lors du processus de développement de la maladie. On en a parlé tout tantôt avec l'autisme, entre autres. Ce qui m'emmène maintenant donc à vous parler des axes de transformation des services de santé mentale qui répondent un peu à ce portrait épidémiologique que je vous ai donné ou à cet ensemble de problématiques. Donc, un premier axe de transformation qui a été aussi noté depuis cet après-midi, c'est l'emphase sur l'intégration des patients dans la communauté. En fait, cet axe de transformation découle de la désinstitutionnalisation, donc un mouvement qui prend forme après la Seconde Guerre mondiale, je vous dirais surtout, qui prend un peu plus d'essor dans les années 80. Alors, dans cet axe, ce que l'on cherche à faire, c'est réduire les hospitalisations et réduire la durée des hospitalisations au minimum. Et je vous dirais donc de développer des alternatives à l'hospitalisation. Comme découle de cet axe, toute une panoplie de services d'hébergement avec soutien. On a, je pense qu'on a eu une présentation aussi là, qui a quand même tracé un bon portrait des types d'hébergement. Je vous dirais aussi dans cet axe-là, on insiste sur le concept de rétablissement. On a beaucoup aussi, depuis cet après-midi, mis l'emphase sur le rétablissement. Le rétablissement, ce que ça veut dire, on en a parlé beaucoup, je vais juste le répéter rapidement. Donc, le rétablissement, ce n'est pas nécessairement le fait de guérir. On a vu que les troubles mentaux sont beaucoup de nature chronique, mais c'est le fait de mieux vivre et de bien vivre avec sa maladie. Et c'est sûr que dans ce courant-là, je vous dirais qu'on insiste beaucoup sur le fait de regarder les forces de l'usager et non pas juste ses faiblesses, ses lacunes. On insiste aussi sur l'empowerment ou le pouvoir d'agir des usagers et vraiment leur assurer une bonne qualité de vie malgré leur maladie. Et c'est un mouvement aussi qui appuie la présentation précédente sur les pères aidants. Nous aussi au Québec, on a des formations de pères aidants, on a aussi des pères aidants qui travaillent dans le système et je pense que c'est des acteurs très importants de notre système de soins. Un deuxième axe de transformation très important, c'est d'améliorer la continuité des soins et l'intégration des services. Ici, je vais vous présenter un certain nombre de bonnes pratiques d'intégration dans quelques instants, donc des pratiques qui visent à soit intégrer les services spécialisés ou les soins primaires et même l'ensemble du dispositif de soins. Un autre principe que je suis sûre que vous avez vécu, en tout cas nous au Québec, on l'a beaucoup vécu dans les dernières années, c'est donc améliorer l'efficience du système. Donc, c'est de faire plus avec le moins de ressources, optimiser les processus de travail et des pratiques et aussi améliorer l'imputabilité des organisations et des professionnels de soins. Un autre courant aussi important, je pense qu'on en a fait aussi allusion depuis cet après-midi, consolider les soins primaires. Je vous dirais qu'on a de plus en plus d'études qui nous disent que là où les pays ont consolidé davantage leurs soins primaires, ils ont une population en meilleure santé. On nous dit aussi dans la littérature que 90 % des cas de troubles mentaux peuvent être traités en première ligne. On nous dit que les généralistes, les médecins omnipraticiens, sont les cliniciens les plus aptes à pouvoir prendre en charge les troubles mentaux, puisqu'ils peuvent prendre en charge les troubles mentaux, les troubles physiques et l'addiction à la fois. On sait que les troubles mentaux, comme je vous disais tantôt, viennent rarement seuls. Ils sont souvent accompagnés de maladies physiques chroniques et d'addiction. Bien sûr, les généralistes offrent des services moins stigmatisants qu'aller, par exemple, à l'hôpital psychiatrique. Et bien sûr aussi, les généralistes sont plus accessibles étant donné les nombreux points de service des cabinets privés sur l'ensemble des territoires. Et quand on regarde la littérature, je vous dirais, on voit aussi que aller se faire traiter au niveau des soins primaires est plus apprécié par l'usager qu'aller se faire traiter au niveau des soins spécialisés. Quand on regarde la clientèle des médecins généralistes, je vous dirais que l'une des clientèles les plus importantes en termes de volume, ce sont les personnes avec des troubles mentaux. On sait tous qu'une personne sur quatre au cours de sa vie va avoir un problème de santé mentale et cette clientèle-là est dans les cabinets privés, cliniques médicales des généralistes. Donc, les généralistes doivent traiter cette clientèle-là. Par contre, je vous dirais, quand on regarde la littérature, elle est très critique sur la qualité des soins dispensés en première ligne ou l'expertise des médecins généralistes à traiter les troubles mentaux. Et donc, on identifie une panoplie de solutions pour épauler ou aider les généralistes à mieux traiter les troubles mentaux et je vous nomme quelques solutions. Donc, bien sûr, on favorise que les généralistes pratiquent en groupe de médecine de famille, donc pas en silo, tout seul dans leur cabinet, mais que les généralistes se mettent ensemble et puissent mettre en place des pratiques de groupe. On aussi promeut le fait que les médecins généralistes travaillent en équipe multidisciplinaire, donc accompagnés d'infirmières, accompagnés de psychologues, de travailleurs sociaux. On tend aussi à indiquer qu'on devrait modifier la rémunération des médecins. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, bien sûr. Au Québec comme en France, la plupart de nos médecins, si je ne me trompe, sont payés à l'acte. Alors, la rémunération à l'acte est souvent critiquée comme une rémunération qui n'est pas adaptée à des cas de troubles mentaux graves et même des troubles mentaux, des patients qui consultent plus et plus longuement au niveau des médecins. Et donc, on met de l'avant davantage des paiements mixtes sous forme salariale ou des paiements sous forme d'indicateurs de performance. On favorise aussi comme solution de mieux soutenir les généralistes, c'est-à-dire de développer des grilles de dépistage ou d'évaluation des besoins et même des protocoles d'intervention clinique. Je vous dirais qu'on a un certain nombre aussi de modèles qui ont été identifiés et développés dans la littérature pour mieux orchestrer les soins de première ligne. Vous avez sûrement déjà entendu parler des soins par étapes. Peut-être vous connaissez plus les soins par étapes par l'appellation anglophone qui est le Step Care. Il y a aussi le modèle des soins chroniques. Je suis persuadée que plusieurs dans la salle vous connaissez. Alors, le modèle de soins chroniques a été mis en place pour l'organisation de la première ligne, autant au niveau des maladies cardiovasculaires, du diabète que pour les troubles mentaux. Et je vais vous parler du modèle de soins partagés dans quelques minutes. Les soins partagés, c'est vraiment un modèle au cœur de notre refonte, nous au Québec, de notre système de santé mentale. Aussi, comme autre alternative aux généralistes, on promeut de plus en plus de développer ce qu'on appelle les infirmières praticiennes de première ligne. C'est quoi des infirmières praticiennes de première ligne? Ce sont des infirmières qui ont un degré de maîtrise, donc vraiment des études avancées. Ce sont des infirmières qui peuvent traiter, diagnostiquer les maladies physiques et les troubles mentaux. Je vous dirais même, malheureusement, au Québec, on en a quelques infirmières praticiennes de première ligne, mais je vous dirais qu'on n'a pas de cabinet d'infirmières praticiennes de première ligne, vraiment des infirmières autonomes dans leur cabinet, comme les médecins. On en retrouve beaucoup aux États-Unis et en Ontario, et les études nous indiquent que les patients sont très, très satisfaits des services octroyés par les infirmières praticiennes de première ligne, autant que les services obtenus par les médecins généralistes. Et le dernier axe de transformation dont je voulais vous parler, c'est l'axe sur les bonnes pratiques. Je vous dirais que de plus en plus, on focalise sur les bonnes pratiques depuis les années 2000. C'est quoi les bonnes pratiques? En fait, ce sont des pratiques qui ont fait l'objet de données probantes, qui ont démontré leur efficacité à améliorer les processus de travail et les résultats de santé. Mon équipe a eu la chance de travailler sur la recension de deux documents qu'on a fait pour le ministère de la Santé et Services sociaux, deux documents qui recensent les bonnes pratiques au niveau des troubles mentaux et au niveau des addictions. On a recensé donc une cinquantaine de bonnes pratiques, donc qu'on a classifiées en quatre catégories, les approches cliniques, les thérapies, les stratégies cliniques et organisationnelles et les programmes ou modèles d'intégration. Je vous dirais que ce sont deux documents disponibles sur le web, donc facilement accessibles. Et qu'est-ce qui est intéressant de ce document-là, c'est que chacune des bonnes pratiques sont présentées d'une façon très succincte, en deux, trois paragraphes. Vous avez la définition des bonnes pratiques, ses composantes clés, et dans un ou deux paragraphes, quels sont les effets probants ou les résultats attachés à chacune de ces pratiques. Je vais vous présenter ici donc quatre bonnes pratiques. Alors, la première bonne pratique que je voulais vous parler, c'est le modèle de suivi intensif ou de soutien d'intensité variable. Donc, le modèle de suivi intensif, peut-être que vous connaissez plus sur son appellation anglophone qui est Assertive Community Treatment, et le suivi d'intensité variable, c'est Intensive Case Management. Je pense que ce sont des modèles, en fait, qui rejoignent beaucoup ce que vous avez au niveau des équipes mobiles ou des modèles peut-être plus au niveau de votre système médico-social, le SAMHSA et le SAVES. Ça ressemble à ces interventions. Alors, je vous dirais que le SI et le CIV ont fait l'objet d'énormément d'études. On retrouve beaucoup, beaucoup de littérature scientifique sur ces interventions-là. Ce sont des pratiques qui ont été développées aux États-Unis au tournant des années 80. C'est les deux modèles que je vous présente, c'est des modèles qui ont été développés au niveau des services spécialisés. Pour les patients avec des troubles mentaux graves, le SI, c'est vraiment des patients avec des troubles mentaux graves, très graves en fait, qui ont aussi souvent des problèmes concomitants, qui ont aussi des incapacités fonctionnelles élevées, des patients qui font l'objet de portes tournantes aux urgences, qui ont été souvent hospitalisés et dont les traitements usuels se sont souvent démontrés aussi non efficaces. Le CIS, c'est une intervention qui est donnée à l'hôpital par une équipe multidisciplinaire où le psychiatre joue un rôle clé. Le ratio patient-intervenant est très peu élevé, donc de l'ordre de 10 patients pour un intervenant. Donc, le patient reçoit plusieurs visites par jour à plusieurs visites par semaine selon ses besoins. Et donc c'est un service extrêmement intensif et je vous dirais aussi c'est un service de longue durée. Quoique maintenant, on essaie de plus en plus de transférer les patients qui sont dans des programmes SI dans le programme suivant que je vous présente, qui est le soutien d'intensité variable, étant donné le coût associé au programme Assertive Community Treatment. Le programme donc de soutien d'intensité variable est un programme donc moins dispendieux qui peut donc traiter plus de personnes. C'est offert pour aux patients qui ont des troubles graves, mais moins sévères que pour le programme suivi intensif. Il s'agit ici d'un suivi individualisé de type gestion de cas. Alors, le gestionnaire de cas, la plupart du temps, il est soit travailleur social ou infirmier. Et donc, on demande au gestionnaire de cas d'intervenir le plus possible chez l'usager lui-même ou dans la communauté, le moins possible à son bureau. Les visites sont de l'ordre d'une visite par semaine à deux visites par mois. Et le ratio intervenant-patient est beaucoup moins élevé que dans le cas du suivi intensif, donc de l'ordre de 25 patients par intervenant. Les objectifs visés par le SI et le CIV sont bien sûr d'améliorer le rétablissement des patients, leur niveau de fonctionnalité, leur autonomie, leur empowerment et leur intégration dans la communauté. Le prochain modèle que je voudrais vous présenter, ce sont les soins partagés. Comme je vous disais tantôt, les soins partagés, c'est vraiment un modèle clé de notre réforme en santé mentale au Québec. C'est un modèle qu'on a déployé au niveau des services spécialisés, mais vraiment pour soutenir la première ligne, les soins primaires. Le modèle vise vraiment à consolider l'expertise des médecins de famille. Comme je vous disais tantôt, la littérature est très critique par rapport à l'expertise des médecins de famille. On sait que la clientèle, elle est là, auprès des médecins de famille. Et nous, notre système, contrairement au vôtre aussi, il est très hiérarchisé. C'est-à-dire qu'un patient ne peut pas avoir un accès direct à un psychiatre. C'est sûr que s'il passe par l'urgence, oui, mais le patient passe vraiment par la première ligne, les médecins généralistes, et c'est juste après une référence qu'il peut aller au niveau des services spécialisés. Et on a différentes modalités d'accès, première ligne, services spécialisés. Donc, notre système est vraiment très hiérarchisé parce qu'on part comme principe que les services devraient être déployés davantage au niveau des soins primaires. Donc, vraiment, les soins primaires, c'est le palier de la dispensation des services de santé mentale et les services spécialisés sont là pour, de courte durée, pour donner de l'expertise soit aux cliniciens ou soit pour une référence rapide pour faire un diagnostic ou proposer des traitements médicamenteux aux médecins. Donc, les soins partagés dans ce modèle-ci, c'est qu'on a identifié un certain nombre de psychiatres dans notre système qu'on appelle psychiatres répondants. Donc, on a un certain nombre de psychiatres répondants désignés par territoire et ces psychiatres-là vont se déplacer. Donc, nos psychiatres, nous, ils sont tous à l'hôpital, donc ils vont se déplacer dans les grandes cliniques de médecins généralistes. Ils vont se déplacer auprès des équipes de première ligne psychosociale et ils vont faire des études de cas avec eux pour mieux renforcer donc les compétences au niveau des troubles mentaux plus complexes. Les psychiatres aussi peuvent aller peuvent en fait accompagner le médecin pour la consultation auprès du patient, pour les épauler dans leur diagnostic ou leur traitement médicamenteux. Les psychiatres aussi offrent de la formation et aussi la consultation téléphonique sur les heures de bureau. Donc, le médecin peut appeler le psychiatre répondant en tout temps pendant les heures de bureau pour avoir rapidement un conseil. Alors, on dit souvent qu'une image vaut mille mots, et c'est la dernière bonne pratique que je vais vous présenter. C'est une pratique, donc, autour là, des réseaux intégrés de services. Comme on peut voir ici, il s'agit d'un non-réseau intégré de services, et quand on regarde l'autre image, elle veut représenter l'opposé, donc un réseau intégré de services. Alors, comme on peut voir ici, malheureusement, on a un pauvre petit patient pris entre les mailles du système de santé mentale. Il ne sait pas à quelle porte cogner pour avoir accès au service. Et s'il est chanceux, il a accès au service. Il ne sait pas de quelle façon circuler pour qu'on réponde à l'ensemble de ses besoins d'une façon continue. C'est souvent ce qui se passe au niveau du patient, pas seulement les patients qui ont des troubles graves, mais aussi pour les patients qui ont des troubles courants. Nous aussi, notre système de santé est vraiment divisé en patients ayant des troubles graves et patients ayant des troubles courants, dépression, anxiété, etc., où il y a des bonnes pratiques et des modélisations différentes pour les deux types de patients. Et donc, dans la figure qui suit, ce qu'on veut exposer, c'est donc un patient. On voit ici qu'il y a un accès très clair à l'entrée des services dans notre système sur tous nos territoires. Donc, le Québec est divisé en territoires et dans chacun des territoires, on a mis en place des guichets d'accès aux services. Donc, c'est une porte unique d'entrée quand le patient a besoin de services en santé mentale. Donc, au niveau de ce guichet-là, on va faire l'évaluation des besoins du patient, on va lui établir un plan de service, on va aussi le prioriser au niveau de l'accès aux services selon ses besoins. Et donc, ici, donc, on voit que le patient a un accès direct aux services et on peut ici, dans ce modèle-là, il obtient donc une trajectoire fluide de services qui répond à l'ensemble de ses besoins. En fait, ce que veut dire un réseau intégré de services, c'est un peu ce qu'expose cette figure-là. Un réseau intégré de services est un territoire sur lequel on a bien identifié l'ensemble des organisations qui le composent, la gamme de services essentiels ainsi que les lacunes de services dont on ne dispose pas malheureusement. Et quand on regarde les petites flèches illustrent différentes stratégies ou différents outils qu'on peut déployer entre les organisations ou entre les intervenants ou entre les gestionnaires pour mieux interrelier l'action de l'ensemble du dispositif de soins. Dans cette figure, ce qu'on indique, c'est que dans le fond, un réseau intégré de services peut se décortiquer en différentes cibles d'intégration. Les cibles d'intégration, ce sont les services, les organisations, les gestionnaires, les lignes de services, les intervenants, les médecins, les patients. Et en fait, pour interrelier l'action entre ces différents types de services, on peut mettre en place différentes stratégies ou différents outils. Et pour vous donner quelques exemples, donc pour améliorer la continuité du patient, il y a différents modèles de gestion de cas qui existent. Je vous en ai parlé de deux, le suivi intensif, le soutien d'intensité variable, mais il y a toutes sortes d'autres modèles de gestion de cas, aussi des modèles de gestion de cas qui sont plus développés pour les patients qui ont plus des troubles mentaux courants, parce que les deux modèles que je vous ai présentés, c'était pour les troubles mentaux graves. Pour mieux interrelier l'action entre les services, on peut mettre en place des agents de liaison entre les organisations, entre les services. On peut déployer des mécanismes de référence standardisés. Pour mieux interrelier l'action des organisations, on peut fusionner les établissements. Et je vous dirais qu'au Québec, on est très, très bon. Par rapport à ça, on est passé d'à peu près 900 établissements, environ une vingtaine, trentaine d'années, à maintenant moins de 50 établissements. Etc. Donc, vous avez plein de mécanismes que vous pouvez mettre en place d'une façon concrète, des outils ou des stratégies d'intégration pour interrelier l'action entre ces différents partenaires. Alors, ce qui m'emmène à conclure au niveau d'un certain nombre d'enjeux et de défis pour l'amélioration des services de santé mentale, des enjeux et des défis que j'ai moins abordés jusqu'à maintenant. Donc, ma présentation a beaucoup focalisé sur les psychiatres, les médecins de première ligne, les équipes psychosociales de première ligne. Et ce qui est très, très important aussi, c'est de mobiliser les autres acteurs clés de la première ligne à la prise en charge adéquate des troubles mentaux. On parle des organismes dans la communauté, des organismes en but lucratif. On parle aussi des autres secteurs que la santé mentale, la municipalité, l'école, la justice. Je ne sais pas en France, mais au Québec, on a vraiment beaucoup d'organismes communautaires en santé mentale, des organismes communautaires qui offrent du soutien à l'hébergement, qui offrent en fait des groupes d'entraide par les pairs, des groupes d'entraide par les usagers, des organismes communautaires aussi qui offrent des activités de jour, des activités aussi d'intégration au travail ou à l'éducation, etc. Donc, l'ensemble de ces acteurs-là sont clés si on veut renforcer la première ligne, les soins primaires de santé mentale. Un autre enjeu important aussi est d'intégrer le patient et ses proches dans le processus de soins. Je pense qu'on a beaucoup focalisé sur ça dans la présentation précédente. Alors, bien sûr que le patient et ses proches sont des acteurs clés de leur propre rétablissement et c'est important de monitorer d'une façon continue les besoins du patient pour favoriser son rétablissement. L'importance aussi de déployer des cultures organisationnelles apprenantes pour favoriser la qualité des soins. Développer aussi des leaderships collectifs forts. On sait que c'est les acteurs du terrain qui mettent en place les réformes. C'est important de bien les mobiliser et qu'ils se sentent partie prenante des transformations. L'importance aussi de soutenir les transformations en continu. Malheureusement, je ne sais pas en France, mais au Québec, on met en place plein de très belles réformes et souvent, on oublie d'épauler les réformes, de les soutenir. Souvent, ça prend de l'argent de transition aussi pour mettre en place les réformes et beaucoup de soutien et de monitorage. Et finalement, l'importance de favoriser la formation continue, multidisciplinaire et multi-organisationnelle et l'émergence de communautés de pratique. Merci.
Merci beaucoup. On va enchaîner directement par le docteur Ionella Petrea, directrice de Trimbos International, l'Institut Trimbos, qui est un institut néerlandais de la santé mentale et des toxicomanies, et donc qui va nous parler de la, également des perspectives et prospectives de nouvelle organisation des soins.
Bonsoir, je suis très impressionnée que vous êtes tous restés ce soir et je vous remercie d'être toujours présente. Je m'excuse que je vais continuer en anglais parce que j'ai préparé ma présentation en anglais. J'espère que ça va pour vous. Ce que je voudrais... I will present to you today. I hope to give you an overview about what is going on at European level. And though it is so late in the evening, I'm very glad to be the speaker after our Quebec colleague, because I can see a lot of similarities between what is going on in Quebec and what we do at European level, and no doubt as well in France. At the moment, many of you may know that the policy mandate at European level is on one side from WHO, the Mental Health Action Plan, the European one and the global one, both of them running from 2013 to 2020. And within the EU, we have the framework for European Framework for Action for Mental Health and Wellbeing. This document, the second one, the European Union document, I should stress it is not an actual policy. It is an agreement between member states, including France, to collaborate among themselves and to follow a number of recommendations that we have, those of us working together, representing member states, representing our government, have agreed upon. In the last 3 years, at European level, we have engaged into a process of dialogue and exchanges of data and good practices, which was called European Compass for Mental Health and Wellbeing. What the Compass has tried to do was, on one side, to produce further information about the developments at European level on mental health, what kind of policy developments we had, where we are with implementation, but as well to produce scientific papers on the base of evidence on the topics selected by member states. And we can see here we focused on prevention of depression and building resilience, on provision of more accessible mental health services, mental health at workplace and mental health in schools, provision of community-based mental health services, prevention of suicide, and finally, mental health in all policies. On the other side, we also engaged a lot with many stakeholders on organized consultations. These consultations were at national level, and we had national awareness workshops in all European countries. And we also had, on a yearly basis, a European Forum for Mental Health and Wellbeing. And I'm very glad to say that France was very well represented at all of them. And in the last one, it was represented by the group from Lille Métropole, who presented the excellent services they have in the community. Finally, we try to disseminate the findings of our work. Now, if we look at what's going on in Europe, collecting data from all the member states, what we have found is that there are some areas where there were improvements, marked improvements, such as development of policy and legislation, but as well the launch of prevention and promotion programs, issues around involvement of users and carers, where we can see it's really increasingly an established practice, self-help groups, but as well promotion of organization models that relate to service catchment areas, sectors, as we call them in France, and as well further development of outpatient services. However, we have also noticed that in certain areas there is little progress, and I will show some data afterwards, but definitely, we can do a lot better when it comes to monitoring the implementation of different interventions that we are doing. Many times there is not a proper information system in the country. When there is, the information system is not capturing the most telling data, data that will give us sufficient, us and decision makers, the right information to make the right decisions. And as well, we know that we don't collect sufficient evidence on the practices that we have. And many times there are very good practices, but it is their implementation is not accompanied by evaluation. So it is very hard to demonstrate that they are evidence-based practices. Also, and this resonates with what we heard from our previous speaker, the integration of mental health in primary care seriously lags behind. We still have to complete in many European countries the process of transition from institutional care to community care. And France is doing well in some parts, and perhaps there's still a lot of work to be done in expanding the community services in other parts. We still need to work a lot more on integration of services such as home treatment and crisis care. Now, I'll show you some data. So, for example, if some services such as, broadly speaking, outpatient services are present in most member states, almost 80% of them, we see, however, that primary care liaison is only present in about 27% of the member states. Home care treatment, 19%. Assertive outreach, 12%. Early intervention, 8%. So these are areas where we really need to do a lot better at European level. And if we look at what happens with upon discharge, once a person leaves the mental health service, what happens to them? So many of them, for example, leaves a hospital. Some 58% end up in outpatient clinics in the community. Only 8% of them are followed up by assertive outreach teams. And we know that a lot more of them would need such services. Only 16% would receive home treatment. And some 16% will return. Well, this is only about what happens in one circuit to hospitals. The revolving door rate, we know that's in fact a lot higher than this. What we try to do as well is to discuss with governments and key stakeholders what are their priorities, what is on their agenda when it comes to mental health. And it was interesting to know that after decades and decades of work on mental health, treatment gap remains still a key preoccupation. Because to this day, we have still a great difference between what people need and what they actually receive. And linked to that, the work on anti-stigma that still remains a key priority. So is the collaboration with other sectors, such as social welfare, but as well education and others, employment. With regards to community services, there's still too little work being done on regulating community mental health services. And I'll explain what it's meant with that. Many countries say, yes, we are willing to develop community-based services and we integrate them in our policies. But when we can actually see that this happens when home treatment is paid by health insurance. And still, this is not the case in many countries. When crisis intervention of home is paid by health insurance, when there is payment linked to doing this kind of home visits, when it's money linked to providing assertive outreach. So this issues that relate to the regulatory framework are not there yet. There's still a lot of fragmentation. There's still people, like we've seen in the very beautiful graph you had, they are still bouncing from one service to another, and there's still too little continuity of care, both within the mental health services, but as well across the other sectors. And the regulation of the professions, different professions involved in mental health care, is still not where it should be. In some countries, we have very, very well regulated the profession of clinical psychology, and they are well assigned to roles and responsibilities, and therefore paid for their services. In quite a few countries, that is not the case. Also, the services of a psychiatric nurse is acknowledged in only a limited number of countries, and that is a lost resource, because we know that however affluent a country is, And Netherlands is not a particularly poor country, but we certainly cannot afford to pay for specialized services at the high end of psychiatrists or psychologists for all the needs of the population. So we really need to rely as well on the resources that are available through nurses who, if they are well trained, they can provide excellent care. As I was mentioning earlier, we have looked at the base of evidence across Europe and internationally, trying to see what are the key elements that we should have in a model of care. And there will be no surprises. I've been listening to the earlier presentations as well from French colleagues, and I can see that these are also on your mind. So on one side, we have the primary care liaison, which can play a key role in providing support, but as well doing the assessment and the triage of patients, but as well providing a referral to specialized services and providing low-intensity treatment for people with common and moderate mental health problems. There is a strong base of evidence that community-based mental health teams are efficient. And in particular, if we look at the services of the community teams, as well the assertive community teams, the intensive case management, early intervention services, and community rehabilitation teams. There is also quite a strong base of evidence on alternatives to inpatient treatment, for example, crisis intervention at home and home treatment, but as well day hospitals and residential alternatives to inpatient services, such as time-limited community-based crisis homes or family placement. At the same time, if we look slightly outside health, there is also a strong base of evidence that housing and supported accommodation is an efficient intervention in mental health. And for example, the high support 24-hour staffed services, but as well shared homes with lower staffing levels. They can be 16 hours, 18 hours, depends on the intensity, the actual needs of patients. And independent arrangements with assertive support. Finally, support for employment has long been demonstrated to be a very effective intervention in mental health care. A return to work, and particularly with the program with the intervention individual placement and support, has been demonstrated for a long time to be an efficient intervention. Besides these elements that we know that are by now clearly efficient interventions, there are also a number of developments that require further research, but we can see that there are good practices that have developed around them. And particularly if we talk about recovery-based practices, shared decision-making and collaborative care planning, peer support, and it was nice to see some of the peer workers, people with lived experience of mental health problems talking earlier today, tackling stigma and social inclusion, personal budgets, and flexible assertive community treatment. So these elements, scientifically, we haven't been able to find a strong base of evidence, but it is clear there are a lot of good practices in all of these areas, and they will clearly develop further. Towards the end of my presentation, which I'm trying to conclude not too long from now and keep you awake until then, I'd like to talk a bit more about the importance of the recovery model, because this is at the core of all mental health modern mental health services. And we are not talking about only recovery in terms of symptoms, but it's very important to have the three elements, functioning, symptoms, and identity. And to make sure that we focus not on only the medical goals of recovery, but also on personal goals of people who have these mental health problems. So we have here in the center the person, and on one side we have self-help groups, resource groups, community services, and mental health care. So this person has to be at the center and can benefit from all of this range of services. A very important concept in modern mental health care is the service user as the co-creator of its own care. And this is at all the levels, at individual level, where he should be involved in the shared decision-making for the treatment, at system level, where he's involved as a team member, and I know that in France you are about, or maybe have already started with the first academic course for peer workers in Paris, and at policy level, through their involvement in groups, policy groups working on your national policies at local level and at governmental level. Knowing all of that, there's always a question about what is the way forward, because we have on one side a wide variety of recommendations for actions, which come from European Framework for Action, but as well from the WHO European Action Plans. And we have a variety of good practices that we have collected through various mechanisms, either at EU level, but as well in other fora. Countries always struggle to make decisions because there are many things to prioritize, and that is something that it is up to us to work on and engage with decision makers and support them in ensuring that they have make good choices and there is a balanced approach between their priorities and their broader agenda and the mental health agenda. And I'd like you to leave you with these thoughts about what our choice is, and it is something that I hope you'll reflect further in your meetings the next 2 days about how is it that one you can contribute to the transformation of the services here in France. Thank you very much.
Merci beaucoup. Bon, alors comme vous l'avez tous constaté, il est tard, mais peut-être il y a une question pour une remarque sur ces deux présentations qui étaient extrêmement, on l'a dit, hein, on voit bien que les changements se font dans des directions qui sont assez compréhensibles, avec des solutions communes, mais un niveau d'avancement qui est variable d'un pays à un autre. Je ne sais pas, une remarque, une question. Donc, je pense que je vais conclure, je vais faire une synthèse. Donc, ma synthèse, ce serait une synthèse historique, hein, et non sociologique. Donc, le changement, ce n'est pas un problème, c'est un processus. Je pense qu'on a eu des outils conceptuels qui permettent de penser les mutations, qu'on a vu beaucoup d'exemples de ce qui peut se faire ou qui est difficile. Il y en aura d'autres pendant les 2 jours à venir. Et je pense qu'il faut remercier les organisateurs de tous ces apports qui, à mon avis, permettront de transférer vers la pratique. En tout cas, on peut le souhaiter. Merci et bonne soirée.